Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez du Forum pour la sécurité en Afrique qui s'ouvre ce matin au Sénégal et qui sera largement consacré au Sahel.
Oui, cette réunion annuelle est encore toute récente. C'est à la fois le Sénégal et la France qui, en 2013, se sont promis de mettre en place un rendez-vous régulier afin de débattre des stratégies mises en œuvre par les pays africains pour faire face aux attaques terroristes. Au Sahel, ces stratégies nationales sont soutenues par l'armée française avec l'opération Barkhane, la force conjointe G5 Sahel et la MINUSMA, la force de maintien de la paix, avec ses 10 000 casques bleus. Un déploiement massif qui n'a pas empêché que l'insécurité se soit non seulement intensifiée, mais aussi étendue dans la région, depuis le Mali jusqu'au Burkina Faso, jusqu'au Niger, au Tchad. Pourtant, en 2015, des accords dits de paix avaient été signés à Alger, entre le Mali et de nombreux groupes armés sous l'égide de l'Union africaine, avec le concours de l'Union européenne et de la France. Alors pourquoi ces accords ont-ils échoué? Bonjour Nicolas Normand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur de France dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Mali, au Sénégal, au Congo. Vous avez publié récemment le grand livre de l'Afrique aux éditions Erol et vous êtes aujourd'hui très critique de cet accord d'Alger signé en 2015. D'abord, qui était convié à prendre part à ces négociations?
Alors en fait, dans l'accord d'Alger signé en 2015, il n'y avait pas les principales forces hostiles, notamment les groupes djihadistes étaient exclus de l'accord d'Alger. Donc cet accord était signé essentiellement avec les groupes armés séparatistes, aussi d'ailleurs en fait, même si on ne le disait pas, des groupes armés narcotrafiquants, et aussi curieusement les groupes armés qui étaient pro-Bamako et qui se battaient eux-mêmes avec les groupes armés séparatistes. Donc il y avait trois pôles dans les signataires, les groupes séparatistes, les groupes loyalistes et le gouvernement de Bamako.
Réunis dans la coordination des mouvements de la Zawad. C'est ça, et les djihadistes voilà, oui. En étaient exclus. Ils n'ont pas été conviés ou ils n'ont pas voulu participer?
Les deux, je pense, mais en pratique, ils n'ont pas été conviés et on pensait les isoler. On pensait qu'on allait simplifier le paysage, disons, des groupes armés en isolant complètement les djihadistes et ensuite en se concentrant sur eux.
Donc on a d'abord exigé des groupes armés qu'ils ne s'attaquent plus à l'armée malienne, mais en échange de quelle contrepartie?
Alors effectivement, le seul aspect positif véritable de l'accord d'Alger, c'est que ces différents groupes armés séparatistes en particulier ne s'attaquent plus à l'armée malienne. En contrepartie, on leur donnait toute une série d'avantages. Le premier avantage, c'est que ceux qui avaient occupé la ville de Kidal, avec l'assentiment de l'armée française, qui avait empêché l'armée malienne de rentrer dans la ville de Kidal, qui est une grande ville du nord du Mali, eh bien, on les laissait à Kidal, on leur donnait le pouvoir à Kidal. Donc, en fait, on maintenait une espèce de séparatisme qui avait pour nom un projet d'autonomie. Ils ne voulaient plus officiellement quitter le Mali, mais être autonomes simplement. Et deuxième contrepartie, c'est que leurs combattants devaient être intégrés progressivement dans l'armée, et sinon dans l'administration, ou au moins dans la vie, on devait leur fournir un emploi. Et encore un autre avantage, c'est que tant que ce processus n'avait pas abouti, ces groupes armés avaient le droit de circuler en gardant leurs armes. Ils n'étaient pas désarmés. Donc finalement, ça faisait beaucoup d'avantages et de contreparties qui étaient données. C'était dû au fait que l'armée malienne a signé cet accord en position de faiblesse. Elle avait été battue deux fois par ses groupes armés, en 2012 et également en 2014, lorsque le Premier ministre du Mali avait cherché à aller à Kidal, en disant au fond Kidal appartient quand même au Mali, et je vais faire une visite sur place. À ce moment-là, sa délégation avait été assassinée par le MNLA, qui était un groupe séparatiste. Et du coup, l'armée malienne était intervenue en légitime défense et avait été battue donc une deuxième fois en mai 2014.
Nicolas Normand.
En 2015, l'armée malienne était très faible et en plus la pression internationale était très forte sur le Mali pour qu'il signe un accord avec ses groupes. D'où des concessions quand même très importantes qui ont été faites à ces groupes armés.
Leur fournir un emploi, une place dans l'administration, c'est quelque chose qu'on a entendu par exemple récemment dans les enjeux internationaux en ce qui concerne la Centrafrique. C'est quelque chose de réaliste et est-ce que ça s'est fait surtout?
Alors effectivement, le Mali n'était pas le seul pays à la Centrafrique. Avant, il y avait la RDC. Donc c'est assez habituel de signer des accords avec des groupes armés en leur faisant des concessions. Moi, je pense que c'est une mauvaise méthode parce que souvent, ça perpétue ces groupes armés, ça leur donne un statut d'égalité pratiquement, de partenaire avec l'État. Ça leur donne un encouragement aussi vis-à-vis des populations qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire la majorité de la population locale. Cette population voit bien que les groupes armés ont gagné des avantages. Et donc, ils sont incités à prendre les armes aussi pour avoir les mêmes avantages. Et d'autre part, ils se sentent souvent, c'était le cas au Nord-Mali, menacés par ces groupes armés qui ont conservé leurs armes. Il faut voir que c'est une minorité ethnique qui a pris les armes en 2011 et 2012. Ce sont des Touaregs et quelques tribus arabes du nord du Mali, et que la majorité de la population sur place est constituée de Sonrai, qui sont des Noirs sahéliens, ainsi que des Peuls et d'autres communautés. Et donc ces communautés, voyant ces groupes armés qu'ils appellent quelquefois les peaux blanches, qui sont des Touaregs et des Arabes, se sont menacés, parce que traditionnellement, les Touaregs faisaient des razzias chez des populations environnantes. Et donc, de nouveau, ils ont vu ces Touaregs armés qui les menaçaient dans leur esprit, et ils se sont donc armés eux-mêmes. Donc, il y a eu une tribalisation armée qui s'est faite dans toute la région, et une partie, quand même, du chaos actuel que l'on observe au Mali vient du fait que ces groupes qui avaient été les premiers à prendre les armes n'ont pas été désarmés, et que le reste de la population s'est armée aussi, à la fois pour se défendre contre ces groupes armés et pour bénéficier des avantages acquis par l'accord d'Alger. Donc tout le monde s'est armé, en gros, dans la région, pour bénéficier de cette espèce de syndicalisme de la Kalachnikov, c'est-à-dire les avantages des seigneurs de la guerre qui avaient obtenu un accord avec le gouvernement, et aussi pour se défendre, parce qu'il y a une espèce d'insécurité générale qui s'est développée.
Le syndicalisme de la Kalachnikov, dites-vous, peut-être que cet accord d'Alger part aussi d'une mauvaise analyse de départ. Est-ce que c'est votre avis, Nicolas Normand? Notamment, l'analyse occidentale, elle fait la différence entre les djihadistes et les laïcs, pour le dire vite, et c'est le cas des Touaregs, que Paris donc a soutenu dans leurs revendications sécessionnistes. Est-ce que, oui, voilà, est-ce que l'accord de Mali est parti d'un malentendu? L'accord d'Alger, pardon.
Oui, je pense effectivement que c'est parti d'une erreur d'analyse, c'est-à-dire on a considéré que certains groupes armés étaient politiques et que d'autres groupes armés étaient terroristes. Donc il y avait des bons et des mauvais groupes armés. En réalité, de mon point de vue, tous les groupes armés étaient mauvais parce que dans une démocratie, ce qui est le cas du Mali, si l'on a des revendications qui sont réellement politiques, il y a des moyens légaux de les faire valoir, n'est-ce pas? Il suffit de former un parti politique. Dès lors qu'on recourt aux armes, on devient en réalité assimilable à des terroristes ou à des bandits dans une démocratie, de mon point de vue. Et ne pas désarmer tous les groupes armés était une erreur initiale de la force Serval qui a été envoyée par la France, la force militaire française qui a été envoyée en janvier 2013. Elle a fait le tri dans les groupes armés. Je crois aussi qu'elle avait besoin, c'est ce qu'elle explique, de s'appuyer sur une force locale pour combattre les djihadistes. Ils avaient identifié les bons et les mauvais, à tort, ils étaient tous mauvais de mon point de vue, mais pour combattre les méchants, les djihadistes, il fallait s'appuyer sur les bons groupes armés, d'où l'aide qu'ils ont apportée à ces groupes séparatistes. C'était essentiellement le MNLA à l'époque, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, constitué de Touaregs féodaux, qui était minoritaire même au sein des Touaregs.
Et Barkhane, l'opération Barkhane coopère par ailleurs avec deux milices Touaregs parce qu'elles connaissent bien le terrain. Mais est-ce qu'il n'est pas compliqué, Nicolas Normand, de demander à tous les groupes de désarmer quand ils sont eux-mêmes menacés par les troupes djihadistes qui, elles, ne faisaient pas partie de l'accord?
Alors en fait, au départ, ces groupes n'étaient pas spécialement menacés par les djihadistes. Il y avait une prolifération, un début de prolifération de groupes armés. Il fallait, pour pacifier le nord du Mali, exiger, et c'est très important, à mon avis, c'est vraiment une erreur initiale majeure, il fallait exiger le désarmement de ceux qui se voulaient politiques et contraindre les djihadistes par la force aussi à se désarmer ou à se neutraliser.
Alors,
À partir du moment où on ne fait pas ça, on suscite quand même effectivement une situation où maintenant les groupes armés disent nous devons garder nos armes parce qu'il y a des djihadistes. et on est rentré dans un cercle vicieux de confrontation.
Alors...
Et en fait, vous voyez qu'aujourd'hui, les djihadistes n'attaquent pas ces groupes armés qui ont signé l'accord d'Alger. Ces groupes armés ne sont jamais attaqués par les djihadistes. Les djihadistes attaquent les populations civiles et attaquent surtout les forces maliennes et les fonctionnaires maliens. Ils attaquent les professeurs dans les écoles, les représentants de l'État, pour faire une zone où l'État est totalement absent et créer une sorte de début d'émirat ou de zone sous contrôle des djihadistes.
Pour conclure, Nicolas Normand, il nous reste moins d'une minute. Il y a quand même sur place aujourd'hui l'opération Barkhane dont font partie les troupes françaises. L'opération Barkhane, la MINUSMA, enfin, il y a plein de troupes, un encombrement sécuritaire, dites-vous, qui ont quand même quelques victoires à leur actif. Mais quand un territoire est libéré, est-ce qu'il l'est pour de bon? Est-ce que l'État malien reprend ses droits?
Non, c'est-à-dire quand le territoire est libéré, effectivement, l'État malien n'est pas en mesure de mettre des sous-préfets, de faire élire des maires, de mettre des représentants de l'État. Et donc ce territoire n'est pas administré. Et en pratique, les djihadistes reviennent parce que 4500 soldats français ne peuvent pas couvrir un territoire immense. Et donc les djihadistes réoccupent le territoire libéré, ce qui explique très largement la possibilité pour Barkhane de vaincre ce phénomène terroriste.
Avec des nouveaux groupes armés qui apparaissent régulièrement, notamment au nord et au centre du Mali. Merci beaucoup Nicolas Normand d'avoir été avec nous ce matin. Le grand livre de l'Afrique, votre livre, a paru aux éditions Erol. Bonne journée.